Anatole France, La caution. De tous les marchands de Venise, Fabio Mutrinelli était le plus exact à tenir ses engagements. Il se montrait libéral et magnifique en toute occasion, et surtout à l'endroit des dames et des gens d'église. L'élégante probité de ses mœurs était célèbre dans toute la République, et l'on admirait à San Sanipolo un hôtel d'or qu'il avait offert à Sainte-Catherine pour l'amour de la belle Catherine Manini, femme du sénateur Alesso Cornaro. Comme il était très riche, il avait beaucoup d'amis à qui il donnait des fêtes et qui l'obligeaient de sa bourse. Mais il fit de grandes pertes dans la guerre contre les Génois et dans les troubles de Naples. Il advint ainsi que 30 de ses navires furent capturés par les Uscoques ou périrent dans la mer. Le pape, à qui il avait prêté de grosses sommes d'argent, refusa d'en rien rendre. En sorte que le magnifique Fabio fut dépouillé en peu de temps de toutes ses richesses. Ayant vendu son palais et sa vaisselle pour payer ce qu'il devait, il se trouva dénué de tout. Mais habile, courageux, très entendu au négoce et dans la vigueur de l'âge, il ne songeait qu'à relever ses affaires. Il fit beaucoup de calculs dans sa tête et estima que 500 ducats lui étaient nécessaires pour reprendre la mer et tenter de nouvelles entreprises dont il augurait un succès heureux et certain. Il demanda au seigneur Alesso Bontura, qui était le plus riche citoyen de la République, de vouloir bien lui prêter ses 500 ducats. Mais le bon seigneur, estimant que si l'audace procure les grands biens, la prudence seule les conserve, refusa d'exposer une si grosse somme au péril de la mer et de la fortune. Fabio s'adressa ensuite au seigneur Andrea Morosini, qui l'avait autrefois obligé de toutes les manières. « Très aimé Fabio, lui répondit Andrea, à d'autres qu'à vous, je prêterai volontiers cette somme. Je n'ai point d'attachement pour les pièces d'or et me conforme sur ce point au maxime d'Horace le satirique. Mais votre amitié m'est chère, Fabio Mutinelli, et je risquerai de la perdre en vous prêtant de l'argent, car le plus souvent le commerce du cœur va mal entre débiteurs et créanciers. J'en ai vu trop d'exemples. » Sur cette parole, le seigneur Andrea fit mine d'embrasser tendrement le marchand et lui ferma la porte au nez. Le lendemain, Fabio alla chez les banquiers lombards et florentins. Mais aucun ne consentit à lui prêter seulement 20 ducats sans caution. Il courut tout le jour de comptoir en comptoir et partout on lui répondait « Seigneur Fabio, nous vous connaissons pour le marchand le plus proche de la ville et c'est un regret que nous vous refusons ce que vous demandez. Mais la bonne conduite des affaires l'exige. » Le soir, comme il regagnait tristement sa maison, la courtisane Zanetta, qui se baignait alors dans le canal, se suspendit à la gondole et regarda Fabio amoureusement. Du temps de sa richesse, il l'avait fait venir une nuit dans son palais et l'avait traité avec bienveillance, car il était d'humeur riante et gracieuse. « Vous, seigneur Fabio, lui dit-elle, je sais vos malheurs. Ils sont l'entretien de toute la ville. Écoutez-moi, je ne suis pas riche, mais j'ai quelques joyaux au fond d'un petit coffre. Si vous les acceptez de votre servante, gentil Fabio, je croirai que Dieu, la Vierge, m'aime. » Et il était vrai que, dans la nouveauté de l'âge et la fine fleur de sa beauté, la Zanetta était pauvre. Fabio lui répondit, « Gracieuse Zanetta, il y a plus de noblesse dans le bouge où tu habites que dans tous les palais de Venise. » 3 jours encore, Fabio visita les banques et les fonds d'ac sans trouver personne qui voulût lui prêter de l'argent. Et partout, il recevait une mauvaise réponse et entendait des discours qui revenaient à celui-ci. « Vous avez eu tort, grand, de prendre votre vaisselle pour payer vos dettes. » On prête à un homme endetté, on ne prête pas à un homme dépouillé de meubles et de vaisselle. » Le 5e jour, il poussa de désespoir jusqu'à la Corte delle Galli, qu'on nomme aussi le ghetto et qui est le quartier des Juifs. Qui sait, se disait-il, si je n'obtiendrai pas d'un circoncis ce que les chrétiens m'ont refusé. Il s'achemina donc entre les rues San Geremia et San Girolamo, dans un canal étroit et puant, dont chaque nuit, sur l'ordre du Sénat, l'entrée était barrée par des chaînes. Et dans l'embarras de savoir à quel usurier il s'adresserait d'abord, il lui souvint d'avoir ouï parler d'un Israélite nommé Eliezer, fils d'Eliezer Marmonide, qu'on disait grandement riche et d'un esprit merveilleusement subtil. Donc, s'étant enquis de la maison de ce juif Eliezer, il y arrêta sa gondole. On voyait sur la porte une image du chandelier à sept branches que le circoncis avait fait sculpter comme un signe d'espérance en vue des jours promis où le temple renaîtrait de ses cendres. Le marchand entra dans une salle éclairée par une lampe de cuivre dont les 12 mèches fumaient. Le juif Eliezer s'y tenait assis devant ses balances. Les fenêtres de sa maison étaient murées parce qu'il était infidèle. Fabio Mutinelli lui parla de cette manière. « Eliezer, je t'ai plusieurs fois traité de chien, de païen renier. Il m'est arrivé, quand j'étais plus jeune et dans toute la fougue de l'âge, de jeter des pierres et de la boue aux gens qui passaient le long du canal, une rouelle jaune cousue sur l'épaule en sorte que j'ai pu atteindre quelqu'un des tiens et toi-même. Je te le dis non pour te faire affront, mais par loyauté, dans le même moment que je viens te demander de me rendre un grand service. » Le juif leva tout droit en l'air son bras sec et noueux comme un cep de vigne. « Fabio Mutinelli, le père qui est au ciel nous jugera l'un et l'autre. Quel service viens-tu me demander ? Prête-moi 500 ducats pour une année. Oh, ne prête pas sans caution. Tu as sans doute appris des tiens. Quelle est la caution ? Il faut que tu saches, Eliezer, qu'il ne me reste pas un denier, pas une tasse d'or, pas un gobelet d'argent. » Il ne me reste non plus un ami. Tous ont refusé de me rendre le service que je te demande. Je n'ai au monde que mon honneur de marchand et ma foi de chrétien. Je t'offre pour caution la Sainte Vierge Marie et son divin Fils. » À cette réponse, le juif, inclinant la tête comme qui médite et pense, caressa durant quelques instants sa longue barbe blanche. Puis, Fabio Mutinelli, mène-moi vers ta caution, car il convient que le prêteur soit vu en présence de la caution qui lui est offerte. Tel est ton droit, répondit le marchand. Lève-toi et viens. Et il mena Eliezer à l'église dell'Orto, près de l'endroit dit le Champ des Maures. Là, montrant la Madone qui, debout sur l'autel, le front ceint d'une couronne de pierreries, les épaules couvertes d'un manteau brodé d'or, tenait entre ses bras l'enfant Jésus, paré comme sa mère. Le marchand dit aux Juifs, « Ben voilà ma caution. » Eliezer, ayant regardé tour à tour, d'un œil subtil, le marchand chrétien, la Madone et l'enfant, inclina la tête et dit qu'il acceptait la caution. Il ramena Fabio dans sa maison et lui remit 500 ducats bien pesés. « Ceci est à toi pour une année. Si dans un an, jour pour jour, tu ne m'as pas rendu la somme avec les intérêts du taux fixé par la loi de Venise et la coutume des Lombards, imagine toi-même, Fabio Mutinelli, ce que je penserais du marchand chrétien et de sa caution. » Fabio, sans perdre de temps, acheta des vaisseaux et les chargea de sel et de diverses autres marchandises qu'il vendit dans les villes de l'Adriatique à grand bénéfice. Puis, avec un nouveau chargement, il fit voile pour Constantinople, où il acheta des tapis, des parfums, des plumes de paon, de l'ivoire et de l'ébène, qu'il fit échanger par ses commis sur la côte de Dalmatie contre des bois de construction qui d'avance lui étaient achetés par les Vénitiens. Par ce moyen, il décupla en 6 mois la somme qu'il avait reçue. Mais un jour, qu'il se divertissait en barque sur le Bosphore, avec des femmes grecques, s'étant éloigné de la terre, il fut pris par des pirates et mené captif en Égypte. Par bonheur, son or et ses marchandises étaient en sûreté. Les pirates le vendirent à un seigneur sarrasin, qui, lui ayant fait mettre les fers aux pieds, l'envoya cultiver le blé, qui est très beau dans cette contrée. Fabio offrit à son maître de payer une grosse rançon, mais la fille du seigneur sarrasin, qui l'aimait et voulait l'amener à ce qu'elle désirait, dissuada son père de le délivrer à aucun prix. N'attendant plus son salut que de lui-même, il lima ses fers avec les instruments qu'on lui donnait pour cultiver les champs. Il s'enfuit, il gagna le Nil et se jeta dans une barque. Il atteignit ainsi la mer qui était proche, et il fut errant plusieurs jours, et au moment de mourir de faim et de soif, fut recueilli par un navire espagnol qui allait à Gênes. Mais après 8 jours de navigation, ce navire fut assaillé par une tempête qui le rejeta sur la côte de Dalmatie. Près d'y aborder, il se brisa sur un écueil. Tout l'équipage fut noyé, et Fabio, soutenu par une cage à poulets, gagna à grand-peine le rivage. Il y tomba inanimé et fut recueilli par une veuve assez belle, nommée Loretta, dont la maison se trouvait sur la côte. Cette dame l'y fit transporter, le coucha dans sa propre chambre, le veilla et lui donna tous ses soins. Quand il revint à lui, il sentit le parfum des myrtes et des roses et vit de sa fenêtre un jardin qui descendait en étage jusqu'à la mer. Madame Loretta, debout à son chevet, prit sa viole et en joua tendrement. Fabio, dans sa reconnaissance et son ravissement, lui baisa 1000 fois les mains. Il lui rendit grâce et lui fit entendre qu'il était moins touché d'avoir recouvré la vie que de la devoir à une si belle personne. Il se leva et alla se promener avec elle dans le jardin, et s'étant assis dans un bosquet de myrtes, il attira à soi la jeune veuve et lui marqua sa reconnaissance par 1000 caresses. Il la trouva sensible à ses soins et passa près d'elle quelques heures dans le ravissement. Après quoi il devint soucieux et demanda à son hôtesse en quel mois et précisément en quel jour du mois il se trouvait. Et quand elle le lui dit, il commença de gémir et de se lamenter en songeant qu'il s'en fallait de 24 heures qu'une année entière ne se fût accomplie depuis le jour qu'il avait reçu les 500 ducats du juif, Eliezer. L'idée de manquer à sa promesse et d'exposer sa caution aux reproches du circoncis lui était intolérable. Madame Loretta lui ayant demandé la cause de son désespoir, il la lui fit connaître. Et comme elle était d'une grande piété et très dévote à la Sainte Mère de Dieu, elle s'affligea avec lui. La difficulté n'était pas de trouver les 500 ducats. Il y avait dans la ville voisine un banquier qui gardait depuis 6 mois une pareille somme à la disposition de Fabio. Mais aller de la côte de Dalmatie à Venise en 24 heures, sur une mer démontée par des vents contraires, il n'y fallait pas songer. « Ayons d'abord la somme, » dit Fabio. Et quand un serviteur de son hôtesse la lui eut rapportée, le noble marchand fit amener une barque toute proche le rivage. Il y mit les sacs contenant les ducats, puis il alla quérir dans l'oratoire de Madame Loretta une image de la Vierge avec l'enfant Jésus, qui était de bois de cèdre et bien vénérable, et il la posa dans la nacelle près du gouvernail et lui dit « Madame, vous êtes ma caution. Il faut que le juif Eliezer soit payé demain. Il y va de mon honneur et du vôtre, madame, et du bon renom de votre fils. Ce qu'un pécheur mortel comme je suis ne peut faire, vous l'accomplirez sûrement, pure étoile de la mer, vous dont le sein nourrit celui qui marchait sur les eaux. Portez cet argent aux Juifs Eliezer dans le ghetto de Venise, afin que les circoncis ne disent pas que vous êtes une mauvaise caution. » Et ayant mis la barque à flot, il ôta son chapeau et dit bien doucement « Adieu, madame. » La barque prit le large. Longtemps le marchand et la veuve la suivirent des yeux. La nuit tombait, un sillage de lumière était tracé sur la mer apaisée. Or, le lendemain, Eliezer, ayant ouvert sa porte, vit dans l'étroit canal du ghetto une barque chargée de sacs et montée par une petite figure de bois noir, toute resplendissante des clartés de l'aube. La barque s'arrêta devant la maison où était sculpté le chandelier à sept branches. Et le Juif reconnut la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, caution du marchand chrétien.